Les Canuts, troisième partie, chapitre 2. Sortant de chez lui, le père Bouvet traversait la rue de Flessel et descendait vers la ville. Au milieu de la rue, des hommes et des femmes, la tête levée, vociféraient d'un air menaçant. Le vieux s'arrêta, ajusta ses lunettes, et, ne comprenant pas ce qui se passait, s'approcha d'une fruitière qui tricotait son bas sur le seuil de sa boutique.
« Qu'est-ce que c'est donc ?»«
Eh, monsieur Bouvet, c'est l'interdit qui commence. » Soucieuse, elle n'ajouta rien. Ces gens excités lui faisaient peur. « Et après ?» reprit le vieux. « Ça ne m'explique pas ce rassemblement et ces cris. » Un ouvrier lui répondit. « La veille au soir, on avait averti tous les tisseurs qui n'étaient pas mutualistes que le lendemain, tous les métiers devraient cesser de battre. Et ce matin même, on s'était formé en patrouille et mis à parcourir les rues pour forcer les récalcitrants à suspendre leur travail. »
Alors, il y en a qui refusent de se soumettre ?
Oui, l'ouvrier s'expliqua. Dans la rue Tolosan et la rue de Flessel, quelques chefs d'atelier résistaient. Ils avaient laissé leurs compagnons libres de faire ce qu'ils voudraient et de se mettre en grève si ça leur plaisait. Mais ils invoquaient pour eux-mêmes la liberté du travail et prétendaient que nul ne pouvait les empêcher de faire battre leur métier.
Ah ah ! Fit le vieux. Après tout, c'est leur droit.
Mais c'est vers les fenêtres du père Besacier qu'on regarde. On entend battre un métier. C'était bien à Besacier que les cris s'adressaient. L'ouvrier ajouta qu'il était monté tout à l'heure avec les autres et que le vieux n'avait rien voulu entendre. Il était pourtant à l'aise. C'était par avarice qu'il s'obstinait. Ses compagnons n'étaient pas venus. Ils avaient obéi au mot d'ordre. Il restait seul à son métier de velours façonné, qui lui rapportait de grosses journées et qu'il ne voulait pas laisser en plan. Après avoir mis à la porte la délégation, il avait tiré son verrou. On entendit un bruit de vitres cassées.
« Bien touché !» cria une voix.
« Oh, bon Dieu Seigneur ! S'écria la fruitière. La foule applaudit bruyamment. Mais là-haut, le métier continuait à battre. Bis, tan, clac, pan. Vieux têtu, vieux singe.
Faut lui donner des ognes, dit un compagnon. Hardi, les enfants.
Une grêle de pierres s'abattit sur la maison. La plupart, frappant la muraille, retombaient à terre. Mais quelques-unes, crevant les vitres avec fracas, pénétraient dans l'atelier. Au premier rang des gamins, Eugène, échappé de chez sa mère, s'en donnait à cœur joie. Lancé à tort et à travers, ses pierres cassaient des vitres aux étages inférieurs, et il riait.
Arrêtez ! Cria un tisseur. Le métier ne bat plus.
Une boriaude, le chignon de travers, les bras nus et les poings sur les hanches, se récria.
Il se décidait donc, le vieil avare.
Un richard comme lui n'avait pas honte de travailler quand les plus pauvres arrêtaient leur métier. Une fenêtre s'ouvrit. Et pâle de colère sous son bonnet noir, Besacier parut, montrant le poing à la foule.
Scélérat, gredin!
Cria-t-il.
Que me voulez-vous ? Me laisserez-vous en paix, fainéant ? Qu'est-ce que...
Mais de la rue monta une huée formidable qui couvrit sa voix, et voyant des hommes se baisser pour prendre des pierres, à la hâte, il referma la fenêtre. Alors, ce furent des rires ironiques et des mots gouailleurs.
Il avait peur pour sa tête. Elle ne valait pourtant pas cher, une vraie tête de casse-noisette.
« Mais il va se faire assommer !» gémit la fruitière. « Voilà qui se remet à son métier !» Au nouveau battement, les vociférations redoublèrent.
« Hardi les gones ! En avant les pavés ! On verrait qui aurait le dernier mot !»
Et les pierres pleuvaient plus drues sur les vitres, et les débris de verre venaient se briser en mille morceaux dans la rue. Dans la bande des hurleurs, Pellegrin excitait les ouvriers contre son chef d'atelier et s'efforçait de provoquer du désordre. Il espérait tout de ce commencement de trouble. Froidement, il avait, l'un des premiers, donné le signal de la violence et jeté des pierres dans les vitres de besaciers. À la fin, des ouvriers, moins acharnés que les autres, s'écrièrent.
« Arrêtez, arrêtez ! Le métier ne bat plus. »«
Il est mort ! » fit un gonne.
« On lui a tapé sur la bredouillette !»
Ce furent des ricanements barbares.
« Mais non, il n'est pas mort !»
De nouveau, le vieux besacier s'approcha d'une fenêtre pour parlementer. Aussitôt, une pierre partie de la rue alla le frapper au front, et on le vit se reculer vivement.
« Assez, assez !»
crièrent les hommes raisonnables, s'efforçant de calmer la foule. Mais Pellegrin déclara qu'il ne fallait pas laisser un carreau. Les pierres continuèrent à voler. Aux quatre fenêtres, il ne restait plus qu'une vitre intacte. La plupart étaient brisées en étoiles. Ailleurs, les croisées n'encadraient plus que des trous béants. Tous s'acharnaient contre la vitre qui restait. Eugène s'épuisait à faire le moulinet. Il en avait le bras droit cassé. Jamais il ne s'était tant amusé. C'était de vraies vitres, celles-là, tandis que celles de Peugeot n'étaient qu'en papier.
Bing! Flac!
Une grosse pierre venait d'atteindre la vitre au beau milieu et la faisait voler en éclats. Des hurrahs retentirent. Puis la foule, satisfaite de sa vengeance et subitement apaisée, commença à s'écouler par les rues avoisinantes. À la tête des plus exaltés, Pellegrin s'en alla en quête de nouvelles violences à exercer. La fruitière, gémissante et consternée, demeura seule avec le père Bouvet. À ce moment, la mère Besacier, revenant du marché le cabas au bras et un paquet de carottes à la main, à petits pas, montait la rue. La fruitière l'appela, et lui montrant les croisées sans vitre,
Eh, pauvre dame, regardez !»
La vieille, toute saisie, faillit se trouver mal.
« Ah, mon Dieu ! Est-ce qu'il y a eu le feu ?»
Et sans attendre de réponse, haletante d'émotion, elle s'élança dans l'allée. Le père Bouvet voulut savoir ce qui se passait là-haut et, au besoin, porter secours à Besacier. Il monta. La porte était ouverte. Affaissée sur une chaise, la vieille, d'un œil morne, contemplait le désastre. Pêle-mêle, sur le plancher jonché de pierres, gisaient des débris de vaisselle et de vitres. Sur la cheminée, un globe de verre, protégeant une couronne de mariée, montrait sa surface éventrée. Ailleurs, un miroir pendait, lamentable, avec sa glace cassée. Une compresse au front, Besacier, furibond, trottinait à travers l'atelier, montrant le poing, parlant d'aller chercher la police pour faire coffrer les gredins qui avaient tout démoli chez lui.
Ah, s'il avait eu un fusil, il en aurait tué un, aussi sûr qu'il était là. Tas de feignants. On n'était plus libre de travailler à présent. Ils avaient tout cassé. Au moins 18 francs de dégâts, sans compter qu'ils avaient failli l'assommer, les galapiens.
Le père Bouvet s'efforça de le calmer. La police, à quoi bon? Il serait bien avancé quand il aurait fait mettre en prison 2 ou 3 pauvres diables.
Oh, je veux me venger, et je me vengerai, bon sang!
À son tour, la vieille, un peu remise de son émotion, tâcha d'apaiser son mari. S'il allait à la police, les autres seraient capables de lui faire un mauvais parti. Il valait mieux rester tranquille. lui, ne voulait pas avoir l'air de faiblir devant les craintes de sa femme et continuait à crier. Mais quand le père Bouvet fut parti, la mère s'approcha de son homme et, lui prenant la tête, « Fais voir ton front, » dit-elle. Elle enleva la compresse. Il n'y avait qu'une forte contusion, une bosse violacée, qui l'empêcherait de mettre son chapeau et de se montrer jusqu'au soir. Mais ce serait tôt passé. Un peu d'eau d'arquebuse suffirait. Docile maintenant, Besacier se laissa penser comme un enfant. Et peu à peu, gagné par les façons persuasives de sa femme, se calma tout à fait. Quand il descendit, à la nuit close, ce fut pour aller quérir le vitrier.